Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Lauréate précoce de la Caméra d'or du Festival de Cannes de 1997 pour Suzaku et récompensée par le Grand Prix en 2007 pour La Forêt de Mogari, Naomi Kawase est l'une des très rares réalisatrices de renommée internationale du continent asiatique. Tout genre et continent confondus, elle est aussi considérée comme l'un des cinéastes importants de son temps. La famille, la communauté, l'absence, le deuil, la nature sont des thèmes centraux du cinéma de Naomi Kawase, dans ses fictions comme dans ses documentaires. En 2016, quelque temps après la sortie des Délices de Tokyo, elle confiait dans Télérama à Frédéric Strauss. Je suis attachée aux choses spirituelles, aux émotions, et en tant que cinéaste, j'essaie de trouver comment les exprimer d'une manière concrète. Ma façon de faire des films tourne autour d'un rapport entre le tangible et l'intangible, entre le visible et l'invisible qui peuvent dialoguer. Je suis japonaise et j'utilise donc des éléments de ma propre culture. Mais je me considère d'abord comme une citoyenne du monde, je travaille avec des idées japonaises tout en recherchant une signification universelle. En 2014, alors que sortait en France son long métrage « Still the Water », Laure Adler recevait Naomi Kawase dans « Hors champ ».
Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Naomi Kawase. Naomi Kawase, vous êtes cinéaste, auteur de très nombreux films qui ont été récompensés dans les grands festivals comme le Festival de Cannes par exemple. On se souvient de La Forêt de Mogari par exemple. Et puis le dernier film, c'est Still the Water dont nous parlerons tout à l'heure en fin d'émission. Je voulais savoir pourquoi vous aviez abandonné le basketball pour faire du cinéma.
Basketball, bah. C'est parce que je ne peux pas être basketballeur toute une vie, on ne peut pas. Et tant qu'à être joué, je veux jouer quelque chose que je peux jouer toute ma vie. Le cinéma, ça peut me permettre de continuer longtemps, tandis que le basketball, on ne peut pas le faire toute seule.
Quand vous avez tourné Anezu, l'esprit des montagnes, qui est à la fois un film mythologique, en même temps un film sur l'amour, comme toujours, quelle était votre intention? Est-ce que c'était déjà de filmer la nature au plus près ou est-ce que c'était de raconter l'histoire d'une femme qui aimait deux hommes en même temps?
Nara という場所には、万葉集に歌われている歌と同じ風景がまだ残っていて、それはつまり千年以上風景が変わらずそこにあるということなんですが、
En fait, le début de l'histoire de Hanezu, c'est vraiment basé sur le Manyoshu, qui est un recueil de poèmes qui est écrit à l'époque de Nara. Nara, c'est une ville assez, très ancienne du Japon, qui a été une capitale, et où les paysages n'ont pas changé depuis 1000 ans. Et dans ce paysage qui n'a pas changé depuis 1000 ans, il y a une légende qui est attachée à une montagne, qui représente et trois montagnes en fait, une montagne qui représente la femme et puis les deux autres sont des hommes. Et cette légende dit que ces montagnes sont unies par une histoire d'amour compliqué, un triangle amoureux, où effectivement il y a... Donc c'est parti de cette légende basée sur les paysages de Nara qui n'ont pas changé depuis 1000 ans.
Kawase, vous faites partie de cette jeune génération de cinéastes japonais. Vous faites à la fois des films expérimentaux, hyper formalistes, qui se jouent justement de tous les supports cinématographiques. Vous avez entrepris un chantier documentaire autobiographique qui va très loin aussi dans l'introspection. Et vous avez aussi une œuvre de fiction. On vous a connu en France et ce fut un véritable coup de foudre avec ce premier film, Suzaku, qui, comme par hasard, a des résonances aussi avec la forêt de Mogari et même avec Chara. Il y a des thèmes récurrents à l'intérieur de votre propre travail cinématographique. Et pour revenir au premier et au premier plan de votre premier film de fiction, donc Suzaku, c'est ce large panoramique qui s'ouvre sur une forêt immense, forêt qu'on retrouvera omniprésente, comme si elle était un personnage à part entière dans ce film La forêt de Mogari. La nature est-elle bienfaisante? Est-elle une personne pour vous?
Moi, je suis né en 1969,
je ne connais pas la guerre, bien sûr, puisque mais j'ai été élevée par des... Je ne connais pas du tout l'avant-guerre. J'ai été élevée par mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, qui, eux, bien sûr, connaissent cette époque. J'ai été élevée à la campagne. Pour moi, la campagne, la nature était très proche de moi. J'ai vécu dans un environnement où la nature était là. Et quand j'étais petite... J'ai vécu une enfance très différente de l'enfance actuelle des jeunes japonais qui jouent à la maison à des jeux vidéo, sur des consoles, etc. Je ne connaissais pas ça du tout. Il n'y avait absolument pas ça chez moi. Moi, j'allais dans la rivière, j'allais dans la forêt, des expéditions dans la forêt, dans la rivière. J'adorais aller dans la forêt. J'allais toucher les arbres, je regardais la rivière. Cette forêt que vous avez vue dans Mogari, j'ai fait beaucoup d'expériences toute seule. J'aimais beaucoup aller me promener. J'étais très proche de la nature, je la sentais très proche. Donc la nature était vraiment complètement imbriquée dans notre vie, dans ma vie. Donc il y a tous ces bienfaits que l'on peut recevoir du contact avec la nature. Et en plus, bon, je connais aussi les risques de la nature, les problèmes que la nature peut causer aussi. Je voudrais toujours montrer les deux côtés de la nature. C'est à la fois un endroit apaisant et un endroit menaçant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une religion qui s'adresse à la nature, parce que la nature a ces deux côtés. C'est quelque chose d'absolu. La forêt, c'est quelque chose d'absolu, comme un dieu, en fait. C'est quelque chose qui nous force à comprendre, à réfléchir à notre condition humaine de manière réaliste, parce que nous, les humains, nous avons l'impression qu'on peut tout acheter avec de l'argent. Eh bien non, la nature, on ne peut pas l'acheter. Ça nous réduit à notre position d'humain authentique.
C'est pas non plus seulement
ma position à moi, c'est une tradition au Japon, les traditions très ancestrales des Japonais qui ont une vénération pour la nature. Là, je rejoins tous mes ancêtres dans cette vénération de la nature.
おばあちゃん、おはよう。
こんにちは。
おはよう。
おはよう。おはよう、たっちゃん。
おはよう。こんにちは、ゆうとる。え？
朝から昼みたいに暑いからな。
朝から昼みたいに暑い。暑なんの、今日。
暑なるんちゃうかな。
うん。
あれから何年になります。
どこ行くね。
Dans votre premier film, Naomi Kawase, intitulé donc Suzaku, il y a une histoire de perte, il y a une histoire d'absence, comme d'ailleurs dans vos autres films, il y a la disparition d'un père, comme par hasard. Et il y a aussi un procédé qui revient souvent dans vos films, et notamment dans ce premier film, déjà dans Suzaku, il y a un bond en avant, il y a deux temporalités. On se retrouve 15 ans après. Et dans Suzaku aussi, il y a le thème du progrès. Le progrès que la communauté villageoise dans cette région montagneuse du Japon espère avec la venue d'un chemin de fer. 15 ans après, eh bien, ce chemin de fer n'est pas arrivé, n'arrivera jamais. Et en même temps, dans ce tunnel creusé pour ce chemin de fer, le père de la petite fille va disparaître. Est-ce qu'il y a un message dans ce premier film, Suzaku, sur les méfaits aussi du progrès ?
Le
progrès pour être couronné de succès doit être non seulement un progrès économique, matériel, mais doit être aussi le progrès dans le cœur et dans l'évolution des sentiments. Ils doivent être menés de front.
ただ、その現代社会においてはどちらかといえば経済の方。
Dans la société moderne, et en particulier au Japon, quand on parle de progrès, on parle toujours. En fait, il s'agit de progrès économique qui n'est pas assorti ou accompagné du progrès de la sensibilité vis-à-vis de ces changements de la société. Et ce n'est pas par hasard, je pense, qu'au Japon, nous avons actuellement 30 000 suicides annuels. Je pense que c'est un chiffre assez énorme, qui étaient des chiffres qui n'existaient pas avant la guerre. Je crois que ce fameux progrès qu'on vante tellement au Japon est un progrès purement économique et qu'il n'est pas suivi par les gens. Et c'est peut-être pour ça, ça explique partiellement le nombre élevé de suicides. Et assez anormal. Je pense qu'actuellement, les hommes, enfin en particulier au Japon, on essaye de suivre ce progrès, et qui est un progrès, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, purement économique, et on oublie les voisins. Autrefois, on s'occupait de ses voisins, et maintenant, on est tellement obsédé par la course au progrès qu'on oublie les voisins, et en oubliant les voisins, on s'oublie soi-même. Parce que le voisin est un autre soi-même. Autrefois, il y avait beaucoup plus de solidarité, d'entraide, on se regardait, on se connaissait en s'occupant de ses voisins. Et je pense que ce manque de lien social de la société moderne où on court après le progrès purement économique, il est temps peut-être de tirer la sonnette d'alarme et de se rendre compte que il faut ne pas oublier qu'il faut aussi progresser du côté humainement en même temps que économiquement.
Tous vos films, Naomi Kawase, parlent de la nécessité de pouvoir continuer à vivre ensemble et à être soudés dans une communauté par des valeurs communes. Et votre second film de fiction, Chara, développe cette idée de communauté. Vous parliez des voisins, il est beaucoup question des voisins dans Chara. Il est aussi question d'une absence, d'une perte irréparable. Mais là, vu du côté d'un petit garçon qui a perdu son frère jumeau, et en même temps, tout le film est une sorte de cheminement intérieur de la part du spectateur. Vous nous invitez à un voyage où la reconstruction, malgré le malheur le plus terrible qui soit, perdre un frère, où la reconstruction est possible. Est-ce que vos films sont porteurs de messages d'espoir ?
そうです。それこそがシャラ掃除で言いたかったことなんですね。世の中が本当に悪い事件とか、戦争のことだったりとかで、人がこう世界に不安が、
Nous vivons dans un monde où les situations sont très dramatiques, très difficiles, il y a des guerres un peu partout. Nous vivons dans un monde très inquiet. Mais si on montre que ça, il n'y a plus d'espoir. Effectivement, ce jumeau qui perd son jumeau, et qui a 17 ans, finalement, surmontant toutes les difficultés, toute l'horreur de la situation, dans ce festival de la danse qui s'appelle la danse de Basara, où il y a une explosion de vie et de joie, là, il récupère toute l'énergie pour lui donner envie de surmonter cette absence irrémédiable, devenu irrémédiable, et décider de vivre et de vivre joyeusement.
Oh.
Il y a dans tous vos films une, comme une nécessité de montrer un mariage qui, nous occidentaux, pour nous occidentaux, paraît harmonieux dans vos films, entre la modernité dans laquelle vit le Japon aujourd'hui. Vos films sont ultra contemporains et se passent aujourd'hui, dans le temps présent que nous vivons. Et en même temps, ce temps présent est irrigué par la tradition. Et on a l'impression que ça marche bien ensemble.
Je crois que c'est vraiment très important que nous soyons conscients de l'importance qu'avaient autrefois les relations humaines. Et c'est la seule façon, en les valorisant à nouveau, de pouvoir affronter le présent et l'avenir. Nous, quand on voit la culture occidentale,
On
est très fasciné par cette culture occidentale qui est arrivée dans notre petit pays, qui est un pays, une île, enfin un archipel dans lequel il y avait une culture traditionnelle. On a été tellement fasciné par la traduction de cette culture occidentale qu'on a eu tendance à oublier notre propre tradition. Et je crois qu'il ne faut, c'est un espèce de rappel, il ne faut pas oublier les traditions de notre pays et la qualité des relations humaines qu'il y avait avant l'introduction des valeurs occidentales qui sont peut-être plus individualistes et que, dans les, par lesquelles nous avons été trop fascinés à un moment. Je ne veux pas que l'on privilégie l'une ou l'autre. Je crois qu'il faut vraiment essayer à vraiment marier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, marier le plus intimement possible les deux façons d'être au monde. Et c'est un rappel.
Dans Chara, vous interprétez vous-même le personnage de la mère du jumeau survivant. Et je pense qu'il y a des prémonitions dans la vie. D'ailleurs, vous êtes une cinéaste de la prémonition, de la superstition, d'une sorte de magie bienfaisante, par définition invisible. Vous jouez cette scène d'accouchement, puisque cette femme décide d'avoir un autre enfant après la disparition de son premier fils. Et quelques temps plus tard, vous allez vous-même devenir mère. Est-ce qu'il y a eu un signe du destin dans le tournage du film, le fait que vous ayez interprété vous-même le personnage d'une femme enceinte et que vous ayez filmé l'accouchement ?
Bien sûr que ça serait formidable de pouvoir réaliser très vite les choses dont on a envie, mais c'est pas. Et puis il ne faut pas voir trop loin non plus, parce que sinon on ne profite pas du présent. Alors ce qui est vrai, ce que je peux dire, c'est qu'après avoir fini Chara, le tournage de Chara, j'ai regardé autour de moi, comme après chaque film, et je me suis dit, le monde va beaucoup trop vite, il faut peut-être faire une pause. Et moi-même, dans ma vie, il faut peut-être que je fasse une pause. Et c'est peut-être à ce moment-là, justement, que j'ai eu l'opportunité, où j'ai eu, je suis tombée enceinte de cet enfant. Peut-être parce que ça correspondait à mon désir profond. Il faut toujours essayer de répondre à ces désirs profonds. Et mon désir, à ce moment-là, c'était de faire une pause dans ma carrière de cinéaste. Et la pause a été toute trouvée, j'ai eu cet enfant.
Et vous avez filmé vous-même, comme dans le film Chara, votre propre accouchement qui s'est tenu donc traditionnellement en public avec la famille.
Oui, c'est vrai, c'était le film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Naissance, qui a été montré sur Arte, qui s'appelle Tarachime, la naissance. Et j'ai accouché comme dans le film dans Chara, j'ai accouché sur les tatamis. Et il y avait autour de moi tous les voisins et la famille. Et quand on a coupé le cordon, c'est moi qui ai filmé la scène de la coupure du cordon. Je l'ai filmé moi-même.
Oh, yeah. よ。ほらおめでとう。
はい、じゃあくるんであげて。はい。ねえ、とっても元気、立派な坊ちゃんよ。
男の子
ねえ、大きいな、大きかったね。
でもじゃあ男の子や。
On retrouve dans ce film La forêt de Mogari, Naomi Kawase, des composantes qui sont là depuis le début de votre travail. La forêt, la communauté, le deuil. Je crois qu'il faut parler aussi un peu de votre travail. Vous travaillez avec des acteurs le plus souvent non professionnels et avant de commencer un tournage, vous les mettez en condition ?
そうですね、私の場合、用意スタートからカットまで演じてもらうということは決してしません。
Moi, je ne veux absolument pas que les acteurs jouent quoi que ce soit à partir du moment où on lance l'action jusqu'à la fin. Je veux surtout pas qu'ils jouent.
例えば、
Comme dans ce film Mogari, c'était des personnels, c'était vraiment des pensionnaires de maisons de retraite. Où c'était plutôt des gens du village qui venaient pour ce film. Il n'était pas question de leur demander de répéter plusieurs fois les scènes. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'on a vécu au moins une bonne semaine avec eux, avec ces habitants du village qui venaient dans ce lieu du tournage. Et on a fait comme si on vivait en famille, avec eux, nous l'équipe, la caméra. Et on a vécu du matin au soir en mangeant ensemble, en faisant la sieste ensemble, en se promenant ensemble, de façon à ce que ces acteurs non professionnels et un peu âgés s'habituent à cette présence de la caméra.
本当にご飯を食べたりしてるときはそれを撮ればいいわけですし、でお昼寝をすればそこでお昼寝のシーンを撮ればいいわけですし。
Donc une fois qu'on avait vécu ensemble, c'était très facile après de tourner de la caméra, de mettre la caméra au moment où on déjeunait ensemble, où ils se reposaient l'après-midi. C'était tout à fait accepté, très naturel.
もちろんだからといって好きなようにやってもらうわけではなくて、
Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je laissais faire tout, mais je donnais des directives sur papier. Par exemple, à l'actrice qui jouait le rôle de la responsable de la maison, je lui mettais sur un petit papier, dit, bon, bah, tu as qu'à lancer, aujourd'hui on va faire l'anniversaire de Shigeki. Donc elle dit, ah, aujourd'hui on va fêter l'anniversaire de Shigeki. Et alors les petits vieux et les petites vieilles disaient, ah bon, c'est l'anniversaire de Shigeki, c'était très naturel. Donc mes directives passaient par l'actrice qui jouait le rôle de la responsable du centre.
Alors
par contre, à partir du moment où on passe à aux scènes dans la forêt, bon, la forêt devient le troisième personnage, il y a deux personnages qui sont dans la forêt devient le troisième personnage. Là, il n'est pas tellement question d'intervenir en leur disant vous faites ça ou ça, c'était plutôt la forêt qui jouait son rôle et qui déclenchait les réactions. Je dis toujours, je déclenche. La scène, et ça c'est plutôt la forêt qui déclenchait des réactions, parce que la forêt avait une présence très forte. Et en général aussi, je tourne toujours dans l'ordre chronologique. Enfin. Donc à ce moment-là, les acteurs s'approprient le temps qui passe et réagissent en fonction de ce qui s'est passé. On ne leur demande pas de jouer telle scène, le numéro d'un tel. Ils enchaînent les scènes telles qu'elles se sont vraiment déroulées. Alors le problème, c'est que souvent, quelquefois, quand il n'y a pas du tout de directive, ils se mettent à réfléchir et ils se disent, tiens, on pourrait peut-être faire ça. Alors mon travail principal, c'est de leur vider la tête et de leur laisser leur dire, non, vous ne réagissez que en fonction de ce que vous sentez, de la forêt, du vent, de la lumière, et vous n'essayez pas d'ajouter quelque chose. Soyez le plus naturel, c'est-à-dire n'ayez naturel, c'est-à-dire videz votre tête et ne réagissez qu'à ces éléments naturels.
Minasan, kyō Shigeki-san tanjoubi datte. おやつに誕生日会しましょうか。よろしくお願いします。
ハッシュバースデートゥユー、ハッシュバースデートゥユー、ハッシュバースデー、ギラシゲキさん、
Il y a des plans dans Anezou, l'esprit des montagnes, qui font déjà pressentir Still the Water, notamment des longs plans séquences de la jeune femme dans la nature, en vélo, plan qu'on va retrouver avec le couple d'adolescents dans Still the Water. Est-ce que votre intention première, Naomi Kawase, quand vous avez commencé à tourner Still the Water, c'était d'allier l'éloge de la beauté et de l'immémorialité de la nature avec le destin des hommes.
いつも私の映画はやはり自然と人間の関係性を密に描いているということが言えると思うんですが、自転車に関して言えばシャラソージュでも少年と少女が2人乗りをして奈良の古い町の中を走っているというシーンもあります。
En ce qui concerne du lien intime entre l'homme et la nature, je crois que c'est à peu près une des constantes de tous mes films. Pour ce qui est de la bicyclette, il y en avait aussi dans Shara. Il y avait la scène de bicyclette où il y avait le garçon et la fille. Et la particularité de la bicyclette quand on est à deux sur une bicyclette, c'est qu'on n'est pas en train de se regarder l'un l'autre, c'est qu'on regarde tous les deux dans une même direction. Ou alors on affronte quelque chose ensemble. Et c'est ça que j'aime dans l'image de la bicyclette, c'est que l'on est en train d'affronter le même destin, le même inconnu ensemble.
Comment la mort de votre mère adoptive a-t-elle conduit le projet artistique de votre dernier film, Still the Water ?
Je crois qu'effectivement, il y a un lien dans la mesure où je me suis retrouvée après la mort de cette grand-mère qui jouait le rôle de ma mère. Je me suis retrouvée sans appui dans ce monde. C'est elle pourtant qui m'avait ancrée dans ce monde et tout d'un coup, je me retrouvais sans elle et il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai voulu l'exprimer, c'est le premier film que je fais après la mort de cette grand-tante, enfin ma mère. Ce qu'elle m'a transmis, je voulais à nouveau transmettre aux gens qui verraient le film. Et ce qu'elle m'a appris à transmettre, c'est qu'il faut reconnaître les différences et les aimer autant que les ressemblances. Et c'est cette sorte d'amour qui englobe tout que je veux transmettre par ce film.
Qu'est-ce qu'une mère ? C'est une question qui revient souvent dans votre cinéma, mais qui constitue le cœur incandescent de ce film, Still the Water, Naomi Kawase. Une mère manifestement qui a des relations très apaisées avec sa fille adolescente et qui va être amenée à mourir. Et puis une autre mère qui est vue par son fils adolescent comme une sorte d'ennemi, comme une dévoreuse d'hommes. Comment avez-vous construit ces deux personnages de mère ?
いずれにしても母というのは息子なり娘のことを自分とは別の存在に思ってその存在を抱きしめようとしているのではないかなと思ってるんですね。だから何かを渡すということをイサは。
Une mère, c'est quelqu'un qui a une existence différente de son enfant, mais qui, quoi qu'il arrive, embrasse l'enfant, lui donne quelque chose. Même si elle sait, elle, la mère, sait qu'elle est différente. Donc, dans le film, la mère de la jeune fille, de Kyoko, elle lui transmet quelque chose par la main. Elle lui transmet la vie qu'elle va quitter. Et cette vie qu'il a quitte, elle donne à sa fille. La mère du garçon, de Kaito, elle, c'est différent. Elle donne, peut-être que ce n'est pas très important, mais elle donne à ce garçon le pouvoir de vivre sur l'île. Le fait qu'elle l'enracine dans l'île, elle lui apprend à vivre sur l'île. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même une façon de vivre aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que les mères, tout en étant autres que leurs enfants, elles sont toujours prêtes à donner quelque chose à l'enfant et à les rassurer pour qu'ils prennent leur place sur la Terre.
J'ai été bouleversée, comme bien d'autres spectateurs, par votre film, Naomi Kawase, Still the Water, et par des moments qui sont très difficiles et généralement pas filmés par les cinéastes, notamment le moment où cette mère, très jeune, va quitter le monde. Vous montrez cet instant plein de douceur, plein de continuité entre la vie et la mort. Est-ce que c'est une référence aux traditions japonaises ou est-ce que c'est une imagination de votre part ?
あまり伝統的なものではないですね。非常に珍しいことであって、大体今のほとんどの人の亡くなり方は病院で亡くなります。で、ああいうふうにして家で亡くなる。
Cette façon de mourir est quand même assez rare, très rare au Japon actuellement. La plupart des gens meurent à l'hôpital ou dans les maisons de retraite, les maisons de vieillesse. Et je pense simplement que c'est souhaitable que l'on meure comme ça. Je pense que la plupart des personnes, des vieux, voudraient mourir chez eux, entourés. Et je pense que mourir entouré par les lieux que l'on a connus, les gens que l'on a aimés, c'est quand même une façon formidable de mourir parce que ça, c'est très rassurant. Et c'est peut-être le moment, si on meurt comme ça, de pouvoir transmettre quelque chose. Donc c'est un peu un souhait, c'est un peu idéal. Et en même temps, ça se passait encore comme cela dans l'île d'Amami, il y a encore pas très longtemps. C'est écrit et c'est comme cela qu'on accompagnait les mourants. Et on chantait, on dansait autour d'eux. Et c'est aussi une réalité dans ces îles, mais qui a tendance à disparaître. Mais pour moi, c'est un idéal et je pense que il faut le connaître et savoir que c'est comme, peut-être comme ça la meilleure façon de mourir.
Alors c'est dans l'île d'Amami que se passe Still the Water et vous avez compris et su assez tardivement dans votre vie que c'était votre île d'origine. Est-ce qu'il y a un désir de témoigner de la beauté de cette île, des traditions de cette île, de la population de cette île dans votre... Dans ce film-là, Naomi Kawase.
自分のルーツがあるっていうのを知ったのが2003年で、実際行ったのが2008年で、そこの時に8月踊りとか豊神様の存在を知って。
En fait, j'ai découvert ce que ces racines de ma famille étaient de l'île d'Amami. Je l'ai découvert en 2003. Je me suis rendu sur l'île la première fois en 2008. Et le film a été tourné en 2013. Donc vous voyez qu'il a fallu une dizaine d'années pour que ce projet mûrisse et aboutisse à ce film. Quand je suis allée en 2008, j'ai découvert des traditions particulières à l'île qui étaient encore vivantes, c'est-à-dire les danses du mois d'août, les chamans, les relations humaines très chaleureuses, une espèce de vie communautaire qui était très très vive. Et j'ai découvert à ce moment-là avec stupéfaction que tout ce qui faisait mes films, toute l'espèce de subjectivité de mes films, en fait, j'ai retrouvé tout cela à Amami. C'était écrit en moi et dans beaucoup de mes films, et j'avais des attitudes presque chamaniques. En fait, j'ai des relations avec les arbres qui sont très naturels sur l'île et qui... Anara était un peu exceptionnelle, en fait. Donc, c'était très, très impressionnant pour moi. Et j'ai découvert que ces liens, par exemple, avec les morts, les mourants que l'on entoure, étaient quelque chose de très, très précieux et qui méritait d'être connu à l'extérieur de l'île. D'être reconnu par tous, c'est peut-être une façon de sauver l'humanité parce que c'est de redécouvrir la nécessité de ces forts liens d'une communauté. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le film, c'est que je pense que c'est peut-être ma contribution à un espoir désespéré de sauver le monde.
Il y a trois générations dans Still the Water, donc ce couple de jeunes adolescents, ces deux mères et un père. Et puis un vieil homme qui passe son temps au bord de la mer et qui pêche. Quel est celui qui détient le secret ? Quelle génération détient le secret sur les êtres et sur les choses ?
古い世代の人たちの方が知恵を持っていると思います。で、子育ての世代。
Je crois que chacun a un rôle différent. Je pense que la génération des anciens détient la sagesse. Ceux des parents, ceux qui élèvent encore les enfants, sont assez paumés. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Et quant aux jeunes, ils ne savent pas, mais ils ont la force de vie. Mais peut-être les jeunes aussi, parce qu'ils ne savent rien, ils font des expériences, ils font des aventures, ils tentent des aventures. Et ce qui est important, c'est qu'on leur tienne la main. Il ne faut pas considérer les générations séparées. Il faut que chaque génération tienne la main de l'autre et qu'on atténue les chocs des expériences ou des aventures les uns avec les autres.
Le père du jeune homme vit à Tokyo. Donc le jeune homme, pour aller voir son père, est obligé de se plonger dans une extrême modernité que vous filmez, Naomi Kawase, comme une sorte de vie turbulente, chaotique, désordonnée. Est-ce que vous avez voulu, dans ce film, opposer la vie tranquille dans la nature, dans l'île, dans l'ordre des choses, avec la violence urbaine ?
むしろ今回東京を描いたのが初めてのことで、でそのことも含めて人間がそこで
Non, je crois que j'ai pas montré la violence, j'ai voulu montrer qu'il y avait une différence de vie et que les gens qui vivaient à Tokyo vivaient comme ceux de la sur l'île ou ceux qui vivent à la campagne, ils vivent de toutes leurs forces dans un environnement qui leur est donné et ils sont aussi en train de se battre avec les réalités que les autres, autant.
Vous filmez, comme dans tous vos autres films, Naomi Kawase, dans Still the Water, la nature bienfaisante avec la beauté de cet arbre qui va être très important tout au long du film, mais aussi la violence de la nature avec ses vagues du début. Comment arrive-t-on à filmer la violence de la nature ?
これは本当に幸運なことに台風が撮影の期間中に実際やってきて、リアルな台風の下でリアルな波を撮影できました。
Je l'ai filmé telle qu'elle était, c'est-à-dire que j'ai eu la chance qu'il y ait eu effectivement un typhon qui se déclenche pendant le tournage. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais écrit. Mais c'était un vrai typhon et j'adore ces événements où l'on peut filmer sans se retenir. Ou de toute façon, c'est exclu de pouvoir contrôler un typhon. Donc il n'y a pas du tout d'effets spéciaux, il n'y a rien du tout. J'ai filmé, c'était un miracle certes. Mais c'était un miracle très bienvenu et comment on filme ce qui se passe.
Pourquoi les derniers plans du film montrent-ils une machine, hélas bien humaine, qui vient cisailler les arbres vivants et les mettre à terre ?
ある種、やはり人間が犯してしまっている罪の象徴なんだと。
Cet arrachage de l'arbre, c'est une violence que les humains perpètrent contre la nature. C'est une image symbolique des fautes des hommes. Et je sais bien que, en laissant cette scène, on pouvait me reprocher d'avoir trop insisté sur cette faute des hommes. Mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est le minimum que je peux faire pour répéter aux hommes que quand même ils prennent un chemin erroné. Et je l'ai laissé en sachant que j'allais être critiquée peut-être pour cela, mais je voulais, c'était la toute petite participation à cette lutte qui est nécessaire pour préserver la nature.
Merci pour le plaisir et l'effroi aussi que vous nous donnez.
Merci.
Merci à Catherine Cadou qui a assuré la traduction de cet entretien. Merci à Alain Joubert, Corinne Amar, Élodie Royer, Vincent Lecomte et Didier Lagarde.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 octobre 2014 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.